en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, pour cette nouvelle émission en habit vert, j'ai le plaisir de recevoir la physicienne Catherine Bréchignac, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences depuis janvier 2011. Dans le milieu scientifique, on l'appelle le cow-boy, ou plutôt devrions-nous dire cow-girl, forte tête mais pas grosse tête, cette femme au caractère affûté est respectée par ses pairs, et ce n'est pas un hasard si elle occupe des postes à haute responsabilité. Catherine Bréchignac, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue nous voir au studio de Canal Académie. Je le disais à l'instant, vous êtes secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, également présidente du Haut Conseil des biotechnologies, où vous y traitez à la fois les questions de thérapie génique et d'OGM. Nous en reparlerons au cours de cette émission sur ces fonctions. Vous avez été aussi la présidente du CNRS pendant 4 ans, de 2006 à 2010. Une étape de votre carrière que nous aborderons aussi dans quelques instants. Catherine Bréchignac, vous êtes la fille de Jean Taillac, qui était physicien et élève d'Irène Joliot-Curie. Êtes-vous ce que l'on appelle une fille de, c'est-à-dire est-ce que vous portez l'héritage scientifique de votre père et de votre mère aussi, qui était professeur de physiologie et ami à l'époque d'Hubert Curien?
Non, je n'ai pas du tout l'impression d'être une fille d'eux. Je suis quelqu'un qui est moi-même. Donc, bien sûr, mon père était scientifique, ma mère était médecin. J'ai baigné dans cette atmosphère, mais j'ai eu aussi beaucoup d'influence de mes grands-parents qui m'ont beaucoup marqué parce que mes parents étaient jeunes et étudiants lorsque je suis née. Et donc, j'ai mes grands-parents qui se sont beaucoup occupés de moi et c'est une toute autre éducation. Donc, je suis un peu ce mélange de générations.
Un schéma que vous avez reproduit, car je crois que vous avez continué vos études et vous avez eu des enfants aussi assez tôt.
Voilà, un schéma que j'ai reproduit puisque j'avais envie d'avoir des enfants tôt et j'avais deux garçons lorsque j'ai passé ma thèse.
Est-ce que ça n'a pas été difficile de mener de front des études et puis d'élever des enfants?
Non, parce que j'avais aussi une grand-mère qui pouvait s'occuper de mes enfants puisqu'on a toujours dans la famille sauté une génération.
Je vais vous citer dans une interview que l'on retrouve sur Internet. Quand j'ai passé ma thèse, j'avais donc deux garçons. J'ai vraiment voulu avoir des enfants jeunes. C'était l'habitude de notre famille. Car quand je suis née, ma grand-mère avait 40 ans. Je trouve que c'est plus facile de faire une carrière quand on a des enfants très tôt pour avancer vite au départ avec des enfants en bas âge.
Oui, je pense toujours ça. Mais bien sûr, j'avais aussi la chance d'avoir de l'aide parce que je comprends très bien les femmes qui sont dans des situations où elles sont beaucoup plus isolées, avec des difficultés de garde d'enfants et qui préfèrent aussi pouvoir d'abord faire leur carrière puis ensuite avoir des enfants. Donc ça, c'est vraiment des cas particuliers, mais moi j'ai eu cette chance-là et donc j'en ai profité.
Alors on va parler de vos travaux pour lesquels vous avez reçu en 1994 la médaille d'argent du CNRS. Présentez-nous ces clusters, ces agrégats d'atomes que d'ailleurs votre confrère physicien Pierre Bronstein affectionne, dont il nous a parlé dans une émission également d'habit vert. Vous êtes l'une des premières à vous être intéressée à ces clusters.
Oui, j'ai commencé à travailler sur ce qu'on appelle maintenant des nanoparticules avant que le mot nanoparticules soit inventée, puisque c'est après ma thèse, lorsque je suis partie faire un post-doc au Canada, avec les trois enfants d'ailleurs, travailler sur des grosses molécules. Je venais de la physique atomique et ensuite j'ai travaillé sur des très grosses molécules. Et lorsque je suis revenue en France, j'ai donc lancé ces expériences sur les clusters, enfin les agrégats en fait en français, qui sont des ensembles d'atomes qui vont entre quelques atomes et quelques milliers d'atomes. Donc, qui ont des tailles qui vont entre 0,5 nanomètres et 5 à 10 nanomètres.
Quelles sont les applications possibles?
Alors, les applications, tout d'abord, je ne me suis pas du tout intéressée aux applications lorsque j'ai commencé. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de comprendre le passage de la phase gazeuse à la phase solide en construisant soi-même l'édifice. C'est pour ça que j'ai utilisé des méthodes de physicienne, qui étaient des méthodes où on collait les atomes les uns avec les autres dans des jets supersoniques, pour fabriquer ces édifices et regarder surtout comment les propriétés de ces édifices variaient avec la taille. Et c'est très intéressant parce que quand vous avez un objet dont la taille est plus petite que la portée de la propriété physique de l'objet, eh bien, cette propriété physique change avec la taille parce que vous essayez de confiner dans un espace plus petit que celui de la portée de l'objet. Et c'est tout l'intérêt de ces nanoparticules. Alors, bien évidemment, en fonction de la propriété que vous regardez, vous voyez la transition entre cette phase de nanoparticules et le solide changer en fonction de la propriété que vous regardez. Donc, je me suis intéressée aux propriétés optiques de ces nanoparticules, de voir comment les métaux changeaient de couleur. Et d'ailleurs, à l'Académie des sciences, j'avais fait un séminaire qui s'appelait « La couleur des agrégats métalliques ».
Est-ce qu'on peut comparer ces agrégats, ces clusters en anglais, à des bonbons Mentos avec une couche d'une matière et à l'intérieur une autre couche?
Alors lorsque l'on fait effectivement des agrégats hétérogènes, puisque j'ai travaillé sur les métaux avec des agrégats homogènes, mais j'ai aussi travaillé sur des agrégats hétérogènes, ce que je continue à faire d'ailleurs maintenant, c'est-à-dire vous pouvez avoir un cœur métallique entouré d'une gangue qui peut être une gangue isolante, ou qui peut être aussi un autre métal, de regarder comment se fait la ségrégation de la matière à cette échelle de la nano, du nanomètre. Et maintenant, donc en continuant à travailler sur ce genre d'édifice, je regarde maintenant des édifices qui sont formés d'agrégats, donc comment, lorsqu'on dépose des agrégats sur des surfaces, on arrive à former des objets qui sont des objets fractales, qui sont des objets dendritiques, dont les propriétés sont aussi différentes de l'objet massif. Et je regarde le vieillissement maintenant de ces objets, en particulier des objets qui sont faits avec de l'argent, et de regarder comment se fait leur vieillissement à l'air avec la pollution de l'air, et en particulier le chlore et le soufre de l'air.
Et quels sont vos résultats?
Alors les résultats sont très intéressants puisqu'ils montrent que tout d'abord nous avons une corrosion qui est une corrosion qui s'apparente à la corrosion du métal, mais qui de l'autre côté présente aussi des propriétés particulières avec une scission en perles qui n'a strictement rien à voir avec la corrosion macroscopique.
Est-ce que ces agrégats peuvent être utilisés dans des catalyseurs, par exemple?
Alors oui, ces agrégats peuvent être utilisés dans les catalyseurs. D'ailleurs, on a montré, pas nous, mais des groupes, et en particulier des groupes japonais, montré que les agrégats d'or pouvaient être utilisés comme très bons catalyseurs. Et ça, ça a été montré, la propriété réactive de ces agrégats qui, à l'échelle macroscopique, sont des corps complètement inertes, mais qui, à l'échelle du nanomètre, sont très réactifs.
Alors ensuite, vous vous êtes intéressé au processus collisionnel sur radiation laser.
Est-ce que c'était avant.
C'était
juste après la fin de ma thèse. Et avant de m'intéresser aux agrégats, je me suis intéressée au processus collisionnel entre atomes pendant quelques années. Et ensuite, je suis partie sur les agrégats.
Vous êtes détachée de 71 à 84 au CNRS, au sein du laboratoire Aimé Coton à Orsay. Vous êtes nommée directrice de recherche en 85. Et puis en 89, vous revenez au laboratoire Aimé Coton pour en prendre la direction.
Oui. Alors bon, la direction du laboratoire Aimé Coton, je la prenais à temps partiel, puisque comme je continuais toujours à faire de la recherche, et c'était ma passion, et c'est toujours d'ailleurs, je pense que le côté d'utilité pour le laboratoire était important. Donc le matin jusqu'à midi, je m'occupais du laboratoire, et après de midi à tard le soir, je travaillais sur mes agrégats.
Donc vous n'avez pas laissé de côté la recherche au profit de l'organisation de la recherche?
Jamais.
Et même plus tard dans vos fonctions?
Oui, j'aime toujours garder un pied dans la recherche. Tout d'abord, ça permet une certaine modestie et humilité devant l'inconnu, que des gens ont tendance à oublier quand ils ont des fonctions, je dirais, de management assez importantes. Ça fait beaucoup de bien de se retrouver devant des incertitudes.
C'est aussi à cette époque que vous prenez pour la première fois des responsabilités. Vous avez des équipes aussi à votre
charge. J'ai pris des responsabilités, mais tout au cours de ma vie, j'ai pris des responsabilités. Ça, c'est le genre de choses qui ne m'a pas fait vraiment peur. Et surtout, d'essayer de travailler en parallèle avec des fonctions collectives et puis des fonctions de travail scientifique.
Un peu plus tard, de 95 à 97, vous devenez directrice scientifique du département des sciences physiques et mathématiques du CNRS. Et puis, dans la foulée, de 97 à 2000, vous êtes nommée par le ministre de l'époque, le ministre de l'Éducation et de la Recherche, Claude Allègre. Vous êtes nommée directrice générale du CNRS, premier poste occupé par une femme, si je crois bien.
Voilà, c'est tout à fait ça. C'est Claude Allègre qui m'a nommée directeur général du CNRS. Le poste de directeur scientifique était un poste extrêmement intéressant parce que c'est un poste qui permet d'avoir un élargissement sur sa discipline scientifique, tout en restant quand même dans sa discipline. Alors que le poste de directeur général devient un poste beaucoup plus éloigné au fond de la science, parce que vous avez besoin d'être le directeur de l'ensemble des disciplines, et en l'occurrence au CNRS, qui vont des sciences humaines et sociales aux mathématiques, en passant par l'informatique, la biologie, et la chimie, enfin il y a toutes les disciplines sont présentes, et donc on n'a pas du tout la même relation vis-à-vis des disciplines des autres scientifiques. Donc ce poste est un poste très différent du poste de directeur scientifique. Donc poste de directeur scientifique a été un bon tremplin pour ensuite traverser la cour et devenir directeur général.
Mais avec une mission très difficile, puisque Claude Allègre, à l'époque, vous donnait pour mission de débureaucratiser le CNRS. Et là, je crois qu'il y a eu quand même quelques frictions.
Oui, ce n'était pas dans la débureaucratisation avec laquelle j'étais parfaitement d'accord avec lui. On n'a pas toujours été d'accord sur certaines idées, sur certaines façons de mener les réformes. Et c'est vrai que j'ai eu avec Claude Allègre des relations qui n'étaient pas toujours un long fleuve tranquille. Mais c'est quelqu'un que je respecte. C'est quelqu'un qui est capable de faire bouger les lignes. c'est quelqu'un qui remet les choses en débat. Et ça, c'est extrêmement important en science de savoir remettre en question le savoir acquis.
Dans cette époque-là, hein, vous entrez quand même un peu en résistance. Les scientifiques sont derrière vous. Et puis finalement, cette réforme de la recherche n'a pas lieu. Mais vous, ça vous coûte votre poste. Vous devez partir.
Oui, mais on est partis tous les deux. Donc dans une bagarre, il y a deux perdants tout le temps. Et donc ça a été un bien pour moi parce que j'ai pu refaire de la recherche à temps plein. Donc, de quitter la direction générale du CNRS en 2000, même si c'était un peu difficile, ça a été extrêmement positif puisque je suis retournée dans mon laboratoire et après j'ai travaillé entre la France et les États-Unis pendant 5 ans, période extrêmement positive pour mon travail de recherche.
Donc, vous n'avez pas souffert ?
Pas du tout, et je ne lui en veux pas.
Alors, justement, j'allais vous poser la question de savoir quelles étaient vos relations avec Claude Allègre, un de vos confrères.
Mais nous sommes confrères à l'Académie des sciences. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est quelqu'un avec qui j'aime bien discuter parce qu'il est toujours en train d'avoir des idées originales et de secouer un peu les principes établis.
Est-ce que vous pensez que vous êtes sur ce point un peu similaire ? C'est-à-dire que vous aussi, vous aimez bien un peu secouer les
idées reçues ? Oui, mais je suis une femme, reçues. Alors je le fais sans doute avec... un peu plus de douceur.
Je vous propose de marquer une pause, si vous le voulez bien, Catherine Bréchignac. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.
Sur Canal Academy, Jacqueline de Romilly dévoile son amour pour l'écriture et pour la Grèce. Elle est venue parler de son livre « Le sourire innombrable » et de sa traduction de l'historien grec Thucydide. Écoutez également nos chroniqueurs littéraires parcourir ses livres et commenter les œuvres de cet illustre écrivain, membre de l'Académie française et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
Suite de notre émission en habit vert, toujours en compagnie de Catherine Bréchignac. Catherine Bréchignac, on s'est quitté au CNRS. Vous êtes repartie pendant quelques années retravailler entre la France et les États-Unis. Et puis, en 2006, revirement de situation, vous qui avez quitté le CNRS, vous revenez pour en devenir la présidente. Alors, est-ce que cela a été une décision difficile à prendre que d'accepter cette responsabilité puisqu'il y avait une réforme à la clé ?
Oui, ça a été une décision à prendre, mais finalement, je l'ai prise puisque j'ai eu une demande explicite du ministre de reprendre ce poste. Donc, je l'ai repris à bras-le-corps comme je fais habituellement. Bien sûr, en arrêtant de travailler aux États-Unis parce que c'était incompatible. Je gardais toujours une partie de mon groupe au laboratoire à Orsay, mais c'était absolument incompatible de travailler de part et d'autre de l'Atlantique. Donc je suis revenue et j'ai travaillé pour reprendre la présidence du CNRS.
Est-ce que vous avez été touchée par les critiques des chercheurs qui disaient que vous aviez retourné votre veste ?
Non, pas du tout. Jamais personne ne m'a dit ça. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je retournerais ma veste parce que je ne l'ai jamais retournée. Je crois toujours à la science, je pense aux institutions, je pense que le CNRS est une excellente institution, qu'il faut réformer, qu'il fallait réformer. Bien sûr, toute institution d'ailleurs doit se réformer au cours du temps puisque le monde change, la recherche change, la façon de travailler en recherche change. Les équipes qui sont maintenant n'ont plus rien à voir avec celles qui étaient il y a 30 ans. Donc il est clair qu'il faut réformer, il faut réformer en s'adaptant au nouveau processus de recherche et pas faire l'inverse. C'est surtout ça qui est important. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai tout à fait accepté de mener une réforme de l'organisme.
Alors la communauté des chercheurs est importante, mais qu'est-ce que l'on peut dire au grand public vis-à-vis de cette réforme ?
De cette réforme, tout d'abord, la recherche se fait beaucoup plus maintenant en réseau. C'est-à-dire qu'avant, on avait quand même plus de travail en local, en équipe, fermée, bien sûr avec une collaboration internationale très forte. Mais maintenant, la situation se fait beaucoup plus en réseau. D'ailleurs, même les réseaux sont absolument partout, parce que Internet a développé la mise en réseau de manière absolument exceptionnelle. Et il faut savoir que c'est le web avait été découvert au CERN, donc par des scientifiques et qui ont utilisé déjà ça. Donc on était déjà très en avance sur cette mise en réseau. Mais cette mise en réseau s'est amplifiée terriblement avec toute la partie électronique. Donc maintenant, les publications par exemple, rarement on va chercher les revues et on les feuillette. Avant, on allait dans les bibliothèques, prenait les revues, les feuilletait. Maintenant, on est essentiellement à faire de la bibliographie sur notre ordinateur. On n'hésite plus à tout de suite se mettre en contact avec une personne par Internet, par email, enfin... Donc les choses ont complètement changé, donc cette rapidité de mise en réseau doit se retrouver dans les faits et particulièrement dans les structures de recherche. Alors des réseaux c'est bien, mais il vous faut aussi des nœuds de réseau, des endroits où vous allez structurer et servir de point source ou de point d'agglomération, et je dirais de convergence au niveau des nœuds du réseau. Et c'est un peu le rôle qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire d'avoir des pôles Alors, ça peut être des pôles de compétitivité, ça peut être des universités, ça peut être des grandes écoles, ça peut être tout ce que vous voulez. Des zones, ça peut être des couplages, et en particulier fortement des couplages entre public-privé. Et puis, de l'autre côté, la mise en réseau. Et dans ce cadre-là, le CNRS doit jouer ce rôle de mise en réseau national pour être plus ensuite une mise en réseau internationale. Donc, on a ce double aspect entre le local, je dirais le point d'accumulation géographique d'un côté et de l'autre côté la mise en réseau. Et c'est ça qu'il a fallu mettre en place pour faire avancer la recherche maintenant avec la manière dont on travaille à notre époque.
Est-ce que vous estimez être la maman du nouveau CNRS ?
Non, je suis la maman de mes enfants, c'est tout. Je ne veux pas du tout avoir de maternité autre que celle-là.
Est-ce que vous avez été déçue de ne pas avoir été renouvelée dans votre fonction de présidente du CNRS ?
Oh, pas du tout. Vous savez, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement positif. J'ai un optimisme chevillé au corps. Et pas du tout. Bon, le gouvernement m'a proposé ce poste d'ambassadeur, délégué à la science, la technologie et l'innovation, qui est un poste extrêmement intéressant, qui permet de montrer, de présenter la science à l'étranger. Quand on pense français à l'étranger, c'est très souvent la culture française, même le luxe français, mais peu notre science et notre technologie. Or, nous avons une technologie extraordinaire dans notre pays, une technologie au niveau du spatial, du nucléaire. Vraiment, on a une technologie forte. De l'autre côté, du train, du TGV, on a vraiment de la technologie lourde, mais on a aussi de la technologie beaucoup plus légère. Et puis la science, qui est de premier niveau international. Donc, je suis très contente d'être ambassadeur pour mon pays en sciences, technologie et innovation.
VRP de la science appliquée fondamentale ?
Si on veut.
Une nouvelle corde à votre arc. En 2009, vous êtes nommée présidente du Haut Conseil des biotechnologies. Un Haut Conseil qui existe depuis 2009, justement. Je crois qu'il a été créé au moment où vous avez pris les fonctions de président, qui a pour vocation d'éclairer le gouvernement sur les questions intéressant les OGM, notamment. On vous attendait pas à ce poste-là ?
Non, pas du tout. Mais j'ai fait ça, non pas en tant que scientifique, ni en tant qu'expert, mais en tant que citoyenne. Parce que je pense que c'est effectivement important sur des questions qui touchent très fortement la société. Et c'est le cas de cette technologie de pointe que sont les OGM, par exemple, de jouer ce rôle de citoyenne en tant que présidente. Alors, en fait, ce Haut Conseil des biotechnologies est sorti du Grenelle de l'environnement et pour éclairer le gouvernement sur toute décision qu'il avait à prendre en matière de, par exemple, OGM et plantes génétiquement modifiées, parce que c'est là-dessus que s'est cristallisée surtout une partie des questions posées par la société actuellement. Le but était de donner au gouvernement un double éclairage, un éclairage de scientifique et un éclairage économique et social. Et ce qui est important, parce que de vouloir faire travailler tout le monde ensemble dans un même conseil, c'est trop compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, les scientifiques ont une logique, qui est une logique déductive, qui se base sur du raisonnement, alors que la société, elle se base plus sur des données qui sont des données de statistiques. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ce n'est pas bon? Quel est l'impact sur la santé? Avec une composante statistique. Et aussi un autre éclairage, un éclairage éthique, un éclairage économique. Donc, de vouloir avoir un consensus avec tout le monde ensemble n'est pas très bon, en fait, ne marche pas. Et le fait d'avoir séparé en deux conseils, donc un comité scientifique et un comité économique, éthique et social, donne au gouvernement un double éclairage. Et c'est ce double éclairage qui est important pour prendre des décisions. Et je crois qu'on est un exemple français d'un tel système. Alors, c'est pas facile à faire marcher, c'est même plus que difficile par moment, mais je crois que c'est un défi que notre société se doit de porter.
Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, dit de vous que vous aviez le profil idéal, incontestable sur un plan scientifique, inclassable entre les pro et anti-OGM. C'était important d'être aussi impartial et d'être un peu un
médiateur.
Alors,
c'est tout à fait vrai. Moi, je ne suis pas du tout ni pro-OGM ni anti-OGM. C'est exactement lorsque vous allez vous promener en forêt, vous avez des champignons, certains sont comestibles et d'autres vénéneux. Et je pense que les OGM, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vous avez des OGM qui seront sûrement très utiles et d'autres qui ne seront sûrement pas. Donc c'est dans ce cadre-là que je crois qu'il faut que nous réfléchissions à ce nouveau défi que nous avons, qui est de modifier au fond la vie. Et c'est ça la vraie rupture de notre époque. La rupture provient du fait que vous avez la confrontation entre la théorie et l'expérience. dans l'humanité, si vous regardez, vous avez les premières ruptures se sont faites en physique avec les lois de Galilée où on a commencé à pouvoir faire des expériences sur la chute des corps et essayer de voir si les modèles que l'on faisait correspondaient aux expériences. Ensuite, il y a eu les grandes cassures en chimie où on a commencé à créer de la matière, à créer une matière qui était, donc la chimie, c'est vraiment la chimie de synthèse qui est la grande différence. Et puis, bon, bien sûr, Lavoisier a montré qu'il n'y avait que les trois phases de la matière, liquide, solide et gazeuse, et que le feu, c'était autre chose. Donc, on a vraiment eu à ce moment-là, et c'est là où il a dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et ça a été vraiment une vraie rupture parce qu'on a commencé à dire, mais tout se transforme, donc transformons. Donc, on a transformé la matière. Ça a été l'explosion de toute la matière à base de carbone avec les plastiques et autres choses qui ont complètement changé la vision de ce qu'on avait de la matière. Et puis maintenant, on a la rupture en science du vivant, c'est-à-dire qu'on est capable de modifier la vie et d'en créer, donc, enfin, peu ou prou. Et ça, cette rupture, elle est quand même très très lourde à porter pour une société parce que c'est nous-mêmes que nous transformons. Et c'est ça qui pose des problèmes, et c'est sur ces questions-là qu'il faut essayer de réfléchir. Et bien sûr, ça commence par les plantes génétiquement modifiées. Et je comprends qu'il y ait ces débats, je comprends qu'il y ait cette réflexion, et je comprends qu'on puisse se poser des questions. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ce n'est pas bon? Et je crois qu'il faut qu'on raisonne au cas par cas, qu'il faut qu'on travaille sur des exemples, et je crois beaucoup à l'exemple. Voilà, donc ça, c'est un des défis aussi de notre société actuelle. Je crois que le Haut Conseil, dans ce sens, essaye d'apporter à ceux qui doivent décider ce double éclairage.
Vous avez une valeur de sage au sein de ce Haut Conseil des biotechnologies ?
Moi, je ne suis pas quelqu'un de très sage en général. Je ne vois pas comment je pourrais avoir une valeur de sage. Non, j'ai plutôt une façon d'écouter et de mener des débats. J'aime beaucoup les débats constructifs, pas les débats négatifs, mais les débats constructifs, je les trouve toujours très positifs.
Alors justement, toujours à ce sujet du Haut Conseil des biotechnologies, et puis après on avancera, Dominique Volton, qui est directeur de recherche au CNRS et spécialiste des médias, dit de vous que vous êtes curieuse, que vous n'avez pas peur des conflits, et que de toute façon, les biotechnologies, c'est moins dur que le CNRS. Alors est-ce que vous partagez son avis ?
C'est pas du tout le même registre, ça n'a strictement rien à voir. Je pense que c'est des enjeux qui n'ont rien à voir. Le CNRS, c'est un organisme de recherche avec une multitude de chercheurs. Parfois, je dis, c'est un peu un orchestre de divas. Mais les biotechnologies, c'est un domaine de bio et technologie en particulier. Le mot technologie est très important dans ce cadre-là parce que le couplage avec la société est très fort au niveau des technologies parce que la société se doit d'accepter les technologies pour les utiliser. Sinon, on ne sait pas les utiliser. Donc, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Alors, savoir laquelle est plus difficile que l'autre, ça dépend des cas.
En 2005, vous entrez à l'Académie des sciences. En 2011, vous devenez secrétaire perpétuel de cette académie, une fonction que vous occupez conjointement avec Jean-François Bach. Quels sont vos projets à court, moyen et long terme pour l'Académie des sciences, Catherine Rachinac ?
Tout d'abord, je crois que secrétaire perpétuel, c'est un peu comme l'ensemble des tâches que j'ai faites de manière collective, c'est de réaliser des tâches collectives pour l'ensemble de l'académie, parce que les académiciens, nous sommes tous confrères, et l'académie doit être un lieu de débat, un lieu de réflexion, ainsi un corps intermédiaire entre le politique et la société, entre les scientifiques et le politique, les scientifiques et la société. Donc on doit avoir ce rôle intermédiaire de lieu de débat, mais aussi pour éclairer les décideurs, quels qu'ils soient. Donc nous avons une organisation, et le secrétaire perpétuel se doit de faire marcher, au fond, cette organisation, puisque c'est lui l'ordonnateur principal de l'institution. Donc avec Jean-François Bach, nous partageons tous les deux cette tâche. Je pense que dans un avenir un peu plus lointain, ce que j'aimerais, nous avons des débats qui ont été mis en place par mes prédécesseurs et qui sont très bien au sein de l'académie, mais ce que j'aimerais, c'est essayer, puisque nous sommes dans le cadre de l'institut avec 5 académies, de faire partager sur des questions sciences et société, par exemple, aussi les autres académies. Et ça sera peut-être le cas avec ce grand auditorium que nous allons avoir tous en commun, d'utiliser cette opportunité pour répondre, pour avoir des débats, des réflexions sur ces questions de sciences et société, par exemple, qui me tient très à cœur.
Avec un accès au public, j'imagine.
Avec un accès au public, bien évidemment. Avec un accès entre nous et un accès au public, ça dépendra des cas.
Eh bien, je vous remercie, Catherine Bréchignac, de nous avoir donné tous ces éléments. J'espère que nos auditeurs auront saisi une partie de votre caractère. Terminons peut-être sur de la poésie. Je crois que vous aimez beaucoup la poésie. Quel est un des poètes que vous affectionnez ?
J'ai plusieurs poètes que j'affectionne, ça dépend des cas. J'aime bien des poètes, évidemment, comme Rilke, mais j'aime bien Rimbaud. Mais j'aime aussi, quand on retourne très loin en arrière, les fables de La Fontaine. On a beaucoup à apprendre.
Eh bien, c'est sur ces derniers mots que nous allons nous quitter. Merci, Catherine Bréchignac, et je l'espère à bientôt pour une prochaine émission.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.